Et salut à tous, bienvenue dans le Paris Central Show, le podcast 100% PSG. Aujourd'hui, on va parler de beaucoup de choses et principalement le fil rouge, c'est pourquoi le manque d'expérience peut tout changer pour ce Paris Saint-Germain pour la suite de la compétition. Donc déjà, on est avec Tonton, salut à toi Tonton.
Et salut.
Raikoba peut pas être avec nous parce qu'il a attrapé un petit virus, donc rétablis-toi bien, mon petit Raikoba. On va commencer tout de suite avec le sujet principal. Tonton, on sait que sur le match, par exemple, face au Barça, on aura Beraldo qui n'a jamais joué ce genre de match. On aura de l'autre côté Koubarsi qui n'a pas joué ce genre de match non plus. Est-ce que tu penses que ce genre de joueur sans expérience à ce genre de niveau, ça peut faire la différence? On se rappelle notamment de Kerrer qui nous a plombé un match retour face à Manchester United. Est-ce que tu penses que des deux côtés, est-ce qu'on doit protéger Beraldo pour pas que ça soit celui qui nous fasse une erreur, et de l'autre côté profiter peut-être d'un Koubarsi qui n'a pas l'expérience? Est-ce que ça peut se jouer sur ce genre de détails?
Ça peut en effet jouer sur ce genre de détails, et salut Gâteau. Mais je pense que la pièce, la pièce est un peu à double face. Je peux très bien te citer, comme tu as dit, l'exemple de Thilo Kehrer qui manquait d'expérience et qui a paniqué face à Manchester United avec cette superbe passe décisive en retrait pour Romelu Lukaku. Mais je peux également te citer le cas inverse avec Presnel Kimpembe, premier match de Ligue des Champions contre la MSN en 2017. Et je pense qu'on est tous d'accord pour dire que la performance est incroyable et presque proche de l'épique. Ça se demandait si Kimpembe a fait une meilleure performance en Ligue des Champions depuis. Donc je pense que la pièce, elle est un peu à double face, surtout que autant Beraldo que Koubarsi, aucun des deux n'a joué un quart de finale de Ligue des Champions jusque-là. On sait que Beraldo a encore quelques problèmes, notamment défensifs, on va pas se mentir, il n'est pas encore fini ni parfait. Donc oui, ça peut être quelque chose qui peut poser problème, mais Beraldo a également d'autres qualités qui peuvent lui être utiles, notamment justement la relance, la qualité justement balle au pied, le fait de savoir jouer sous pression et de savoir faire des passes qui cassent les lignes. Et de l'autre côté, t'as Koubarsi qui a quand même été homme du match contre Naples en 8e de finale de Ligue des Champions. Donc je pense que vraiment la pièce est un peu à double face, donc c'est assez compliqué de répondre à ta question. Les deux peuvent très bien être un handicap pour leur équipe, comme ils peuvent très bien, de par leur insouciance, amener quelque chose dans cette équipe, comme Kimpembe l'avait fait en 2017 au match aller contre le FC Barcelone. T'as coupé ton micro, Nix.
Oui, Gâteau qui vient de nous rejoindre. Qu'est-ce que tu penses de ce côté manque d'expérience? On a notamment parlé de Thilo Kehrer. Peut-être que tu as d'autres exemples en tête de joueurs qui ont pu coûter des matchs parce qu'ils n'étaient pas habitués à ce genre de match, de tout court. Hier, on a vu par exemple Beraldo qui s'est fait allumer par Dani Olmo. Il lui a aspiré son âme.
Bruno Guimarães aussi.
Ouais. On a vu par contre le match précédent qui est Beraldo, il a fait un très bon match. Je crois que il coûte aussi un but hier, je ne sais pas si c'est un penalty ou s'il coûte un but. Donc il y a le côté double tranchant, on sait déjà qu'il n'est pas très bon en défense, mais on sait que c'est un bon joueur. Est-ce que tu penses que le fait qu'il ne soit pas habitué à ce genre d'événement puisse jouer contre nous? Et pareil pour le côté Koubarsi de l'autre côté.
Comme vous l'avez dit, comme l'a dit notre ami Tonton, on a quand même vu aussi que c'est Kimpembe, parce que c'est Barcelone en 2017, qui a fait une très bonne performance au match aller. Après, Beraldo, moi j'ai mis toujours des doutes au plus haut niveau. Là, il arrive, c'est peut-être une parenthèse enchantée, ça se trouve son niveau va redescendre, ça se trouve c'est son niveau de base et qu'on va continuer comme ça longtemps. Marcy aussi, c'est son premier quart de finale de Champions League, étant donné que le FC Barcelone n'avait pas eu accès au quart depuis au moins 3 ans aussi. Je pense que il va pouvoir aussi être appuyé avec Lucas Hernandez. Ça dépend si Marquinhos est de retour, mais ça semble pas bon. Il va pouvoir être appuyé avec Lucas Hernandez et pourquoi pas refaire la performance qu'il avait fait à San Sebastian du côté de la Real Sociedad. Donc, l'un contre l'autre, ils peuvent avoir les deux arguments se tiennent, c'est-à-dire qu'ils peuvent coûter des points et avoir des actions dangereuses ou aussi dans la relance, créer aussi une relance rapide pour avoir une offensive et créer directement une occasion dangereuse côté parisien. Donc moi, je ne m'en fais pas trop. J'estime qu'avec Lucas Hernandez, ça va tenir, même si j'aurais préféré avoir un droitier et un gaucher dans l'axe. Bon, on a vu que contre la Real Sociedad, ça tenait. Il faudra quand même faire attention avec les histoires de Rafinha, Lamine Yamal et puis Lewandowski. C'est pas forcément évident, leur milieu de terrain aussi qui peuvent monter. Donc je suis pas inquiet. Je pense pas qu'il va coûter quoi que ce soit du côté du PSG. Et puis j'espère pas surtout. Et puis ça se trouve que lui aussi va pouvoir aussi débloquer une situation offensive via la passe. Et même aussi via les coups de pied arrêtés. Il faut rappeler que contre Nice, il avait marqué en Coupe de France. Donc ça peut être ça aussi.
Ok, ce n'est pas pour tomber sur le joueur sans expérience. On a parlé d'un aspect du jeu, mais on se souvient très bien que dans ce fameux match, Kjaer n'est pas le seul fautif. On a quand même un joueur plein d'expérience qui est Buffon qui fait des bêtises aussi. Donc on va dire que l'expérience ne protège pas de faire des boulettes dans ce genre de match. On espère juste que le fait que la jeunesse et tout ne fasse pas que il se fasse avoir par l'expérience, notamment du côté de Lewandowski, etc.
Et Gundogan.
Et Gundogan, effectivement. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Il y a Sébastien qui nous dit le match va se jouer au milieu. Il y a PNL qui nous dit j'ai eu ma place pour PSG Barça le 10 avril, ça va faire le voyage de Bordeaux. Bienvenue à Paris, mon gars.
Benet qui me dit aussi que mon maillot est monstrueux, ça tu le dis pas. Ça,
Ah, si, si, ça a été mis le commentaire.
je l'ai affiché tout à l'heure.
Ah, mais j'ai pas vu, désolé alors.
T'étais
Il vous
concentré.
dit 7-0 dimanche, préparez-vous à aller Paris. Ah, ça c'est un bon sujet qu'on va aborder tout à l'heure. Enfin, on va l'aborder en fin de live. Donc restez avec nous si vous voulez savoir. Est-ce que si vous deviez choisir entre gagner la demi-finale de Coupe de France ou gagner le match, le Classico, qu'est-ce que vous choisissez? Moi, ma réponse, elle est vite choisie, mais j'ai quand même vu pas mal de gens penser autrement. Donc, je voulais parler avec vous de ce sujet. On y reviendra en fin de live. Ok, on va revenir sur ce qui s'est passé un petit peu avec les sélections nationales. On a notamment notre ami Warren qui a pris cher, j'ai vu sur Twitter, sur les réseaux, etc. Donc on va parler de ce sujet, mais juste avant les amis, abonnez-vous. Et n'oubliez pas de liker, bien évidemment. Est-ce que tout le monde est trop dur avec Zaïre Emery? On voit qu'il n'est pas très en forme depuis sa blessure en fin d'année.
Contre
Là,
Gibraltar, ouais.
j'ai vu littéralement les gens lui tirer à boulet rouge après son match face à l'équipe de France. Moi, j'avoue que j'ai regardé jusqu'à la 70e. C'était pas le plus critique des milieux. Franchement, Tchouaméni et Rabiot, c'est censé être joué des quatre de l'équipe de France et de leur club. C'était pas lui qui était le pire de ce que j'ai vu jusqu'à la 70e. Donc, j'ai pas trop compris pourquoi il s'est fait tirer dessus. La question, est-ce qu'on est trop dur avec Warren? Parce que c'est des débuts, il y a des baisses de forme, ça arrive à tous les joueurs. Est-ce que la première chute de niveau, c'est normal de lui tirer dessus comme ça, tonton?
Normal, en fait, moi je pense que le problème vient du constat de base qu'on fait du joueur. Le problème, c'est que comme c'est un joueur qui a fait une bonne saison, la saison dernière, il faut le dire, très très jeune, bah, tout de suite, les gens ont trouvé ça normal. C'est un peu comme Danilo la saison dernière qui a été le meilleur défenseur du PSG. C'était pas normal, mais ça a été un fait. Warren, l'année dernière, c'est pas normal, mais c'est un fait, c'est le meilleur milieu du PSG. Et je pense qu'à cause de ça et de la faiblesse qu'on avait au milieu, je pense que les gens ont vu en Warren Zaïre-Emery le mec parfait qui était tout de suite prêt et qui allait être le meilleur joueur du monde. Et le problème, c'est qu'en mettant ce genre, tu vois, de critères sur ce joueur-là, bah aujourd'hui, quand il a un coup de mou, et c'est le cas, tu vois, depuis sa blessure contre Gibraltar avec l'équipe de France, il a un petit peu de mal à revenir, bah tout d'un coup, les gens se mettent à lui tirer dessus. Parce que bah forcément, tu as placé des attentes en lui qui étaient démesurées, et du fait qu'il ne les atteigne pas, bah d'un coup, tu es plus critique envers. Et moi, j'ai un peu l'impression qu'on a ça envers Warren Zaïre-Emery. C'est un bon joueur, c'est un jeune joueur, il va se développer. Il peut devenir un top joueur s'il fait une bonne carrière et qu'il est sérieux. Mais je pense que tu vois, il faut arrêter de le mettre trop sur un piédestal, parce que c'est en faisant ce genre de bêtises qu'on gosse trop des joueurs qui d'un coup bah, se mettent à avoir le melon et que derrière après ils se remettent pas en question. Et moi, tu vois, je pense que tout simplement Warren Zaïre-Emery, il est tombé contre l'Allemagne, qui est quand même un top, une top équipe. On peut dire ce qu'on veut. Quand on voit les milieux de terrain qui sont alignés en face du côté allemand par rapport à ceux des Français, du côté des Français, t'as que des milieux à vocation physique, défensive. T'as du Rabiot, t'as du Tchouaméni, t'as du Warren Zaïre-Emery. En face, t'as Kroos, t'as Gundogan, t'as Wirtz, t'as Musiala, t'as Gundogan. Bah, forcément, quand tu te retrouves face à des joueurs de top classe mondiale, et c'est le cas, bah, c'est compliqué. Et je pense que c'est pas que Warren Zaïre-Emery, ça aurait été compliqué pour tout le monde. Parce que bah, Didier Deschamps, en face de Nagelsmann, lui, t'alignes quatre défenseurs centraux et trois numéros 6-8. il n'y a pas de création, il n'y a pas de meneur de jeu, donc il a décidé de subir le jeu. Donc Warren ou un autre, il aurait quand même pris son bouillon au final. Donc je pense que, tu vois, c'est pas que Warren qui est pas bon. Warren, il vient quand même de jouer contre l'Allemagne, c'est normal. C'est presque normal, j'ai envie de te dire. Et moi, je pense que tout simplement, il faut le laisser se développer, il faut qu'on arrête de lui mettre une pression démesurée. Parce qu'en lui mettant une pression démesurée à Warren Zaïre-Emery, bah, après, il se passe ce qui est en train de se passer. Tout le monde commence à lui tomber dessus en disant bah, il n'a pas le rendement attendu. Bah, si tu es trop démesuré dans l'attente que tu as envers lui, c'est normal que tu sois déçu. Tu ne peux pas attendre d'un joueur aussi jeune à ce poste bah, qu'il soit de suite le joueur qui porte ton pays, le joueur qui porte bah, ton club. C'est pas normal. En général, ça arrive très très peu, mais quand c'est le cas, c'est pas normal. Donc je pense que Warren. Voilà, je pense que Penel a un peu raison. On l'a cramé, clairement. Je pense qu'il faut qu'on fasse attention avec lui. Si on commence à le surexploiter, à surtirer sur la corde, on parle d'un joueur qui n'est pas fini physiquement, bah, tu vas le tuer. Et après, bah, forcément, tu vas arriver à la conclusion de « Ah, finalement, Warren, ce n'est pas le joueur qu'on attendait. » Donc, je pense qu'il faut y aller tranquille avec lui. Il ne faut pas lui mettre trop de pression. Il faut le laisser faire ses matchs. Et j'entends qu'il faut être exigeant avec lui parce qu'on attend un peu de lui, tu vois. Mais il faut le laisser justement se développer et c'est en laissant se développer bah, qu'il va devenir le joueur qu'il est censé être. Bon, lui, voilà, tu vois. J'entends, tu vois, justement ce truc d'exigence. Mais en mettant cette exigence à ce joueur-là au lieu de la mettre à d'autres, bah, moi, je pense que tu vois, tu mènes pas le bon combat et du coup, après, bah, c'est lui qui va prendre le tarif, tout simplement.
Gâteau, mon ami, est-ce que tu es d'accord avec tout ce qui a été dit par tonton ou est-ce que tu as une autre lecture sur le dossier Zaïre-Emery?
Non, moi je ne le dis que tu as que Warren Zaïre-Emery. Il est vrai qu'il a été mis en lumière l'année dernière, titulaire en 8e de finale de Champions League à 16 ans, etc. Bon, c'était un contexte qui était quand même très difficile et pourtant il a su répondre présent. Cette année, il a un peu les clés du camion au milieu de terrain, même si logiquement il ne devrait pas les avoir. Mais force est de constater que depuis un moment, ça ne va pas trop. Alors oui, il a été baladé à droite, un peu à gauche, comme le dit Sofiane De Wiel, mon dédicace au frérot. Mehdi, Daubert, Sofiane De Riel et puis Thomasson, qui nous suit sur Twitter. Mais le problème, c'est quoi? C'est que les gens sont exigeants. Et tout ce que tu entends aussi sur Twitter, c'est des salaires démesurés. J'entends des histoires de 10 millions d'euros, des histoires de 12 millions, pourquoi pas, voilà, la ligne avec Pedri, etc. Tout ce genre de choses-là. Pour moi, pour c'est un bon joueur, c'est un très grand joueur en tant que jeune. Mais c'est un bon joueur en devenir. C'est un grand joueur peut-être en devenir. On a rarement vu ça au Paris Saint-Germain, des jeunes du centre de formation aussi forts, aussi aptes tout de suite. Quand on est jeune et qu'on joue énormément, il y a un contre-coup. Là, je pense qu'il est en train de vivre le contre-coup. Ça va être aussi le moment où les gens vont être très critiques avec lui dès lorsque bah, il signe son contrat. Mais maintenant, il va falloir justifier pourquoi tu touches ça, pourquoi t'es là sur le terrain. Il y aura de la concurrence aussi. Et puis malheureusement, le coach aussi, mais les gens en concurrence, il n'en a rien à faire de savoir, t'es jeune, t'es pas jeune, hey, t'es pas content, viens t'asseoir sur le banc. On le voit. Warren Zaïre-Emery, son match face à l'équipe de France, il n'est pas bon, voire mauvais. C'est pas parce que les autres milieux aussi ne sont pas bons qu'on ne peut pas dire que lui aussi n'est pas bon. Ça s'explique, c'est un jeune qui apprend, il va falloir qu'il tombe pour se relever et devenir plus fort. Au Paris Saint-Germain, il y a des matchs de Warren Zaïre-Emery qui ne sont pas terribles. Ça s'explique parce que des fois, par exemple, contre Nice, son match n'était pas ouf. Il a joué à droite, c'est pas ce qui l'arrange. Il y a des matchs, même il était au milieu de terrain, c'était pas non plus l'assurance vie. Il y a des très bons matchs de Warren Zaïre-Emery. Par contre, il faut aussi dire les choses. Tout joueur est critiquable. Et c'est là où on crée des chemins. C'est-à-dire qu'en disant que, il est petit, il est jeune, vas-y, même s'il fait pas un bon match, il ne faut pas le dire parce que c'est Warren, parce que c'est un jeune qu'on aime bien, parce que c'est un jeune du centre. Non, il fait un bon match, on va le dire. Il fait un mauvais match, on va le dire. Il fait un très mauvais match, on va dire qu'il a fait un très mauvais match. Il fait un très bon match, on va dire qu'il fait un très bon match. Il faut être juste avec lui. Ces temps-ci, il est en difficulté, malheureusement pour lui. Malheureusement aussi pour nous, que ce soit dans l'équipe de France ou au Paris Saint-Germain. Et puis, ça va mieux aller. Il apprend, voilà. Mais à chaque fois de protéger les joueurs, c'est comme ça qu'on crée des chemins, c'est comme ça qu'on crée
des monstres.
Des monstres et qu'on crée des séparations entre les supporters. Combien de fois les gens se sont fait la guerre parce que t'as critiqué Neymar, alors que t'as pas critiqué Mbappé, alors qu'il fallait critiquer Messi, machin, ceci. Non, tout joueur est sujet aux critiques positives ou négatives. Et c'est ça ma lecture. Donc, il est pas bon, il est moins bon ces temps-ci, parce que. Dire qu'il n'est pas bon. Son match contre l'équipe de France, oui, il n'était pas bon, il n'y a pas de souci. Il est moins bon ces temps-ci, très bien. D'autres prennent le
Avec ce
relais, comme
meilleur.
Vitinha, ou voilà, ou Dembélé, voilà, ou peuvent prendre le relais aussi, pour accompagner. Ça reste aussi un jeune joueur, en tant qu'homme et en tant que joueur dans l'effectif. Il est depuis 2 ans, en tout cas, dans l'effectif professionnel. Donc, en tout cas, on le dit. S'il n'est pas bon, on le dit. Et ces temps-ci, il est moins bon. Il n'y a pas de honte. Et on espère qu'il sera mieux. On ne souhaite pas le mal du joueur. On souhaite toujours le bien du Paris Saint-Germain. Voilà tout.
Ouais, tout à fait. Après, moi, ce que je reprochais, c'était, je suis tout à fait d'accord avec toi, quand il n'est pas bon, il faut dire qu'il n'est pas bon. Mais j'ai juste eu l'impression qu'il y avait plein de gens qui attendaient juste qu'il se rate pour lui tomber dessus. C'est
Pas des
ce que
supporters
j'ai.
parisiens, en tout cas, ouais.
Ouais, c'est ce que j'ai. Côté supporter parisien, je m'attendais. Des gens de la communauté, je vois qu'ils tirent. Ça se voit, limite, ça, je vous l'avais dit, en fait, qu'il allait planer, qu'il allait chuter. Moi, je trouve ça complètement ridicule. Il y a PNL qui nous dit, les gars, Dryas, il est où? Bah, Dryas, il revient bientôt. Il a dit qu'il revient en avril, donc on est le 27, ça devrait pas trop tarder. Ensuite, bah écoutez, je vais vous poser la question qu'on s'est posée tout à l'heure. J'attends des réponses dans les commentaires et avec des arguments. Si vous deviez choisir qu'un seul match à gagner à tout prix entre le Classico de dimanche et le PSG Rennes en demi-finale de Coupe de France, quel serait-il? Jingle et on revient pour vos réponses, les amis. En attendant, gâteau, tu choisirais quoi?
Moi, je choisis la demi-finale de Coupe de France, évidemment. Le Classico, même si c'est un match qui est super important, on n'a pas dit le contrat, quand on dit ton énoncé, c'est pas forcément perdre le Classico et gagner
Voilà.
la demi-finale ou perdre la demi-finale et gagner le Classico. Donc, je peux faire un match nul au Vélodrome et gagner la demi-finale. On sait que le Paris Saint-Germain, sur les dernières finales de Coupe de France, on a eu juste un petit accident en 2019. On mène 2-0, on fait des trucs de malade. On perd cette finale qui m'a toujours fait mal aujourd'hui parce que c'était l'enchaînement avec Manchester United à l'époque. Donc en soi, en finale, on gagne tout le temps. Donc non, 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 moi, il faut gagner la demi-finale. Il faut revenir avec la Coupe de France. La Coupe de France, j'ai dit, il fallait un quart de finale de Champions League, puis gagner la Coupe de France et gagner le championnat. Là, on est dans les clous. On va aller gagner cette Coupe de France. On Rennes à domicile, et il commence à être notre bête noire. J'étais là l'année dernière. Où on a perdu, où des Kalimundo sont venus nous mettre des buts chez nous, des Kartoko et Kambi. Cette année, Rennes, on a eu une difficulté aussi. Au Parc des Princes, on était mené comment il s'appelle, l'international algérien, notre ami, l'ancien Rennais. Comment?
Amine Gouiri.
Amine Gouiri qui a mis un très bon but à l'extérieur. Là, ils viennent au Parc des Princes, on les tape, on va en finale, on gagne la Coupe de France. L'OM, on verra ça dimanche. Non, on verra ça dimanche. En plus, on va en faire une vidéo là-dessus, donc je n'ai pas tout spoil parce que je serai sûrement l'host de cette vidéo. Donc, non, 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 moi, c'est la demi-finale de Coupe de France, absolument. Et l'OM, bon, bah maintenant, l'OM, vas-y.
Bon, tonton, je trouve que l'exercice était trop facile pour Gâteau. Donc, je vais le complexifier pour toi. Si tu dois perdre
La
un de
question est
ces deux
déjà assez
matchs,
chiante. La question est déjà assez chiante pour moi, je te rassure.
si tu dois perdre un de ces deux matchs, lequel tu choisis?
Moi, ça me fait chier en fait ta question. Parce que avant même que tu m'imposes cette contrainte, déjà, j'allais dire, moi déjà, je veux pas perdre contre l'OM. Quoi qu'il arrive, je veux pas perdre contre Marseille. Donc ouais, j'allais un peu tricher comme gâteau en mode match nul au Vélodrome et tu gagnes contre le Stade Rennais, mais ouais, non, compliqué. Compliqué parce que Marseille, il y a énormément d'absents, vraiment. Genre, la liste des blessés, elle est dingue. Donc, si tu perds contre cette équipe-là, ils vont venir nous emmerder comme pas permis, mais d'une puissance. Et j'aurais la flemme de faire ce débrief, clairement, si ça arrive. Mais d'un côté, la Coupe de France serait bien d'aller la chercher. Mais si tu gagnes ce match contre l'OM, d'un côté, tu prends bien l'argent en Ligue 1 et t'es tranquille. C'est ça fait 3 ans qu'on n'a pas eu la Coupe de France et ça reste la compétition du PSG. Donc, vraiment chiant ta question. Ouais, en plus, ta question, c'est je dois pas lequel des deux choisit de perdre. Ouais, en plus, vraiment, t'as décidé de me casser les couilles.
Ouais,
quel des deux je perds?
si ça peut te faciliter parce que tu veux pas te mouiller, moi je le dis clairement, je préfère perdre contre l'OM et gagner à Nice. puisque le championnat il est plié. Et je suis désolé, les gars, vous êtes encore dans votre délire classico, mais vas-y, pour moi,
Non, tu vois, j'allais dire que tu vois, autant cette année, dans l'effectif, il n'y a pas tant de gens concernés par ça dans le classico cette année, dans l'effectif, dans les faits, tu vois, on va pas se mentir. Il n'y a pas tant que ça de gens qui sont dans l'animosité, qui sont vrais Parisiens, supporters du PSG. On n'a pas trop ça cette année. Donc forcément, allez, si tu vas me dire Randal pour te rassurer, Nordi Mukiele, mais bon, Mukiele, il tweetait pour l'OM il y a 10 ans. Donc finalement, on n'en a pas tant que ça, des mecs genre revanchards, haineux de l'OM. Donc je t'accorde sur le fait qu'il y ait moins ce truc. Mais pour moi, il ne faut pas le perdre. Pour moi, il ne faut pas le perdre parce que si on le perd, il y a qui en France, sérieusement, qui va nous chatouiller comme le fait l'OM. Parce que tous les ans, il y a une espèce. Excuse-moi, hein, je vais le dire de cette manière. Tous les ans, il y a un club qui veut s'improviser une rivalité avec le PSG, qui veut être le rival du PSG. Ça tient un an, maximum. L'an dernier, c'était Lens, ils n'ont pas tenu la cadence cette année. Là, il y a Nice, ils ont voulu jouer au cake. Il y a Brest qui les a dépassés depuis. Mais Brest, s'ils arrivent à être ce deuxième, ils ne le seront pas l'an prochain. Donc si on perd cette rivalité contre l'OM, avec qui on va la récupérer, tu vois? Et moi, je pense sincèrement que. Vu déjà l'écart qu'on a avec la Ligue 1, on a besoin un peu d'avoir cette haine avec un club comme l'OM, tu vois. Donc, j'ai envie de conserver le truc.
Ouais, mais je sais pas, moi je suis plus dedans. En fait, la rivalité, on a tellement dominé que limite, je sais pas, je suis peut-être seul dans mon délire, hein, mais je me sens plus en rivalité avec le Barça qu'avec le Classico. Là, j'ai vraiment envie de marcher sur la tête du Barça. Alors que le Marseille, ça fait tellement de fois qu'on leur marche dessus que, vas-y, c'est
Encore dans
même
les rivaux
plus.
du Barça.
C'est même plus. Non, mais c'est pas que je t'ai dit, on est rivaux du Barça, mais moi, dans ma tête. Je suis plus en rivalité, j'ai plus de comptes à régler avec le Barça qu'avec Marseille. Marseille, pour moi, c'est un
Mais
petit
attends, il y
club.
a un truc intéressant parce que t'entends ce que tu as dit là, justement, avec les clubs qui essaient de voir une rivalité avec le Paris Saint-Germain. Est-ce que nous-mêmes on fait pas ça avec les autres grands clubs européens? C'est ça?
Ah si, ça je te rejoins, tu vois, je pense qu'il y a un peu ce truc de le PSG se cherche son rival aussi. Tu...
Calmer aussi, nous aussi, notre délire. Faut taper Marseille, oui. Moi, faut taper Marseille. Y a pas, en tout cas, faut pas perdre contre Marseille. Faut pas perdre. Ce qu'on a vécu l'année dernière en Coupe de France, c'est pas possible. Tu vois, il y a trop de trucs derrière. Maintenant, Marseille, quand même, on les rencontre chaque année, on les tape, oui. Faut les taper, bien sûr. Faut gagner les trois matchs, on va pas se mentir. Mais ça fera plus mal, je pense. Parce que bon, Rennes, ok, mais ça fera plus mal de perdre contre l'OM. Parce que c'est un OM qui est nul à chier en plus cette saison. Non, mais c'est vrai. Si tu me dis à l'époque, vas-y, à un moment, il y avait des André Ayew, des Gignac, tu perds contre l'OM. Bon, allez, il y avait un homme qui était costaud, il y avait une structure intéressante. Là, si tu perds contre cet OM-là,
En
même
chantier.
s'ils n'ont pas gagné, même si depuis des années, enfin depuis des années, depuis le début de la
Avec Rudy
saison,
Garcia.
ils n'ont pas perdu à domicile, certes, mais les gars, quand même, cet OM-là, c'est faible. C'est faible. Avec des mes compatriotes, les Illiman Diaye, les comment ils s'appellent, les Iso, les Ismaïla Sarr, tout ça, vous êtes conscient de perdre contre cet OM-là? Non, 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 les gars, nous, on va se concentrer un petit peu, et voilà, quand même.
Imagine même Jean-Louis Gasset qui revient au... Jean-Louis Gasset qui gagne contre le PSG. Le petit troll là. 10 ans
Non, j'en ai
après
assez,
avoir
moi je lui
signé
en
au
veux pas
PSG.
qu'il soit là-bas, il faut y un emploi, vas-y. En plus, il
Non,
a
non,
entraîné
mais
deux
je
fois
lui
au
reproche
PSG, il a
pas.
entraîné deux fois au début des années
Je dis
2000
pas que je lui
et...
reproche, mais juste imagine la scène. L'ironie de la situation que Jean-Louis Gasset, 10 ans après avoir rejoint le PSG avec Laurent Blanc, il nous bat.
Plus, il est sur une bonne dynamique. Ok, bah écoutez les gars, je pense que vous avez tous répondu à la question. Je vois les avis sont un peu partagés dans le chat, c'est bien, on aime bien quand il y a du débat. On va aborder le sujet suivant qui est la Ligue fait enfin quelque chose de bien pour le Paris Saint-Germain. Ça fait un moment, mais ils l'ont fait. Ligue qui déplace le match entre l'aller et le retour du match contre le FC Barcelone. Après, c'est pas que pour le Paris Saint-Germain, c'est pour tous les clubs français en Coupe d'Europe. Donc Marseille aussi aura droit à cette faveur de la Ligue. C'est quelque chose de bien ou de pas bien pour vous, parce que il y a des avocats du fait que c'est bien de garder le rythme et de jouer tous les 3 jours en arrivant. Dans la compétition, plutôt qu'avoir une semaine de repos et peut-être s'endormir, et que les joueurs ils préfèrent entre guillemets avoir des matchs plutôt que s'entraîner. Ou est-ce que c'est bien, ça permet de se reposer et vu qu'on est le poids Saint-Germain, peut-être éviter des blessures face à Lorient. D'ailleurs, petite parenthèse, merci à Lorient qui a l'air d'avoir très bien pris la chose, qui a posté sur Twitter qui joue le jeu. Mais c'est dommage pour eux parce que entre deux matchs du FC Barcelone, je pense qu'ils auraient pris un autre Paris Saint-Germain qu'ils vont prendre après. Donc, tonton, toi, t'en penses quoi de tout ça?
Ben, j'ai envie de te dire déjà, enfin, la Ligue fait quelque chose dans ce sens. Je ne sais pas si tu te rappelles quand le PSG a joué la finale de Ligue des Champions pendant le Final 8. Le PSG était censé jouer en championnat le même jour qu'il affrontait le Bayern Munich en finale de Ligue des Champions. Le calendrier n'était pas pris au sérieux. À l'époque, je pense que la Ligue 1 s'est tamponnée sérieusement. Et là, justement, à l'inverse, pour une fois, je dis bien pour une fois, parce que je pense que le fait que les planètes s'alignent aussi bien, je pense que c'est super rare. Et si tu cherches dans le calendrier des dernières années de Ligue 1, c'est peut-être la seule fois où c'est arrivé depuis facile 15 ans. Tu as en quart de finale aujourd'hui, à l'heure où je te parle, un représentant français en Ligue des Champions, un représentant français en quart de finale de Ligue Europa et un autre en Ligue Conférence Ligue. Tu as Lille, tu as Marseille, tu as Paris. Tu as une équipe française engagée dans chaque compétition européenne à ce stade. Je ne sais pas si c'est déjà arrivé. Et si c'est déjà arrivé, je pense que c'était il y a longtemps. Donc là, la Ligue, pour une fois, s'est rendu compte que ce serait peut-être bien de mettre en valeur ces clubs. Certains vont me dire, oui, mais ça aurait été pratique de jouer le match de Lorient entre les deux matchs du Barça. J'entends cette théorie. En revanche, si tu regardes et que tu compares le calendrier du Barça avec celui du PSG, le rythme, on l'aura. Les matchs, on les aura joués. Le Barça, à l'inverse, eux, ils auront peu de matchs. Donc, ils auront plus de repos, mais moins de rythme. Donc, finalement, je pense que cette pause imposée avec le décalage avec Lorient, je trouve qu'elle est bienvenue. Je trouve qu'elle est bienvenue parce qu'elle va permettre justement, pour une fois, à chaque club français, autant le PSG que l'OM que Lille, qu'ils soient justement engagés à fond dans la compétition européenne. Parce que y a bientôt une redistribution des droits télé. Je pense que si tu as un championnat avec des équipes qui font un bon parcours européen, tu pourras plus facilement vendre ton championnat. Je trouve qu'on dirait qu'ils se mettent à réfléchir et c'est pas plus mal.
Ok, gâteau.
Non, c'est bien que tonton Vincent Labrune et tout son collège nous permettent de faire ça.
Parce que... pas mon nom à lui, par contre.
Je parle pas de tonton Boller, je parle de tonton Labrune, Vincent. Donc, non, et bon, ça permettra aussi aux gens de se reposer, que ce soit l'Olympique de Marseille, que ce soit Lille ou nous. Et puis, étant donné que ça se fait dans d'autres championnats, l'Allemagne a déjà arrangé le Bayern maintes et maintes fois, les championnats anglais ont arrangé énormément les clubs qui jouent à Champions League ou même l'Europa League, étant donné que les gens jouent le jeudi, ça arrange aussi. Nous, pour le PSG, on aura peut-être un petit trou, mais à nous de faire un petit match amical et à nous de se gérer. C'est aussi simple que ça. Donc, c'est bien. Il faut le souligner. On crache énormément sur la Ligue, on crache énormément sur le calendrier quand c'est mal fait, quand c'est mal foutu. Rappelez-vous, notamment le Final 8, tonton, tu l'as dit, et on sort, on fait ils ont fait en sorte de mettre l'OM à la troisième journée pour que ça fasse une attraction. Ils ont mis lance tout de suite et je ne sais quoi. Et c'est à nous de gérer les matchs. Hein. On ne dit pas que c'est à cause de la Ligue que, mais ça participe. Des matchs tous les trois jours, bon, c'est épuisant, même si le coach gère très bien l'effectif. Là, il aura l'occasion de bien gérer l'effectif en faisant un petit match amical. Je ne sais pas, je trouve un petit match contre une équipe de National, tranquillement. Et puis, non, ils ont bien fait les choses. Ça nous arrange. Maintenant, à chaque fois qu'il y a des choses qui nous arrangent, on a la malfaçon de faire les choses, c'est-à-dire que on arrive quand même, quand ça nous arrange, à faire n'importe quoi. Donc là, on est dans un PSG qui paraît un peu plus structuré, un peu plus sérieux. On va se concentrer, on va faire une petite bulle comme au final, et c'était dit dans les commentaires. Voilà, on focus Champions League. La Ligue 1, je pense qu'elle est à nous. On est déjà champion de France avec le record qui est repoussé, donc à 12 titres. C'est très bien. Ça nous permettra d'être focus sur la Champions League, préserver aussi les blessures, beaucoup de récupération, et puis on va voir comment on va s'organiser.
Je suis désolé, Marquinhos, mais ce que tu viens de dire, Gato, ça m'évoque une chose, et je pense qu'il faudrait qu'on parte avant le match retour 3-4 jours à Barcelone et que les joueurs ils restent à l'hôtel. Parce que je n'ai pas confiance en ces mecs-là une semaine tout seul à Paris. On va les retrouver un ou deux nuit le jeudi, le vendredi, parce qu'il n'y a pas de match et tout.
Tu leur fais confiance une semaine à Barcelone, du coup?
Non, mais là, c'est l'hôtel. Genre, personne sort. C'est mise au vert. Mise au vert. Genre, tout le monde est à un endroit et il n'y a personne qui sort.
Et tu penses que tu vas en retenir certains dont je tairai le nom à Barcelone en pleine nuit?
On n'est pas à l'armée, hein.
Voilà,
Je sais
merci
pas,
Gâteau.
Mais
Barcelone. J'ai bien aimé ce qui a été créé au Final 8 avec l'esprit dans le groupe et tout, quand tout le monde était
Parce que
ensemble.
aussi les boîtes de nuit n'étaient pas ouvertes. Tous ces
Oui.
bars, etc., c'était pas ouvert. Qui te dit que s'il y avait un Final 8 et que le truc il était ouvert? C'est pas.
À
Bah,
Lisbonne
après, ça
aussi,
va être dur pour Marquis d'être séparé de sa femme et ses enfants 3 jours, mais je pense que ce serait une bonne chose.
Oh, laisse les femmes
Ah,
des
si c'est ça qui
gens.
l'inquiète, on va le laisser avec, hein, je te rassure.
Laisse les femmes des gens. Non, ça veut dire quoi ça? Non, chacun gère. Chacun gère.
Bah écoutez les amis, on va passer au message boîte vocale parce que comme vous le savez, vous pouvez laisser des messages dans la boîte vocale et ensuite on y répond tous ensemble. Donc le premier message est de David, qui est de retour parmi nous, qui nous évoque une possibilité avec Nuno Mendes. On va l'écouter tout de suite.
Est-ce que vous pensez que Nuno Mendes pourrait bientôt devenir un milieu de terrain chapeau 1? J'ai l'impression qu'il a le volume de jeu d'un Matuidi Prime. Et en plus, il a le QI football, les projections vers l'avant, le repli défensif. Il sait dribbler, il sait faire des passes, il sait frapper. C'est un milieu de terrain super complet en fait, non? Est-ce que vous pensez que Nuno Mendes pourrait bientôt devenir un milieu de terrain chapeau 1?
Ouais, c'est reparti. Du coup, Gato, je vois que tu fronces des sourcils, donc je te laisse partir en premier. Qu'est-ce que tu penses du message de David?
Désolé David, mais je suis absolument pas d'accord avec toi. Milieu de terrain, il faut beaucoup plus que ça. En fait, la comparaison que Matuidi me vient énormément, parce que Matuidi, on n'a jamais vu quelqu'un qui avait autant de coffre, mis à part N'Golo Kanté. Non, 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 non. Faut arrêter ces conneries là. Il n'y a pas de milieu de terrain, parce que le QI qu'on demande en milieu de terrain dans ce Paris Saint-Germain-là avec Luis Enrique, voilà, c'est beaucoup plus technique que ce qu'on croit. Même s'il a des capacités physiques qui sont très bien, j'ai des doutes encore sur les pas, sur tout ça. Je vois pas, non, en tant que piston gauche ou latéral gauche, très très bien. Déjà qu'ils reviennent, qu'on voit que la sélection portugaise commence à ça se goupille. Et que milieu de terrain pour aller où? Non, 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 non. Pas en aucun cas milieu de terrain, non.
Tonton, peut-être que tu seras un peu plus nuancé, voire peut-être dans l'autre sens.
Pas que je sois d'accord ou pas d'accord, je pense que ça peut être essayé en tant que 8 si tu as un 6 et un 8 à côté, dans le sens où quand tu demandes à Vitinha, tu sais, d'aller coller l'aile pour aider Mbappé, si tu mets un Lucas Hernandez défenseur gauche, en sachant que Lucas Hernandez aura peu d'apport offensif, ça peut être une manière d'apporter justement dans ce couloir un nombre et quelqu'un qui a justement des qualités techniques et physiques intéressantes. Il est rapide. Il sait bien dribbler, il sait se projeter offensivement, il sait marquer, il sait défendre, il sait aussi bien faire des passes dans la profondeur qui casse des lignes, il l'a montré. En revanche, est-ce que ce serait l'utiliser au mieux? Pas forcément. Et je rejoins Gato sur le fait que la comparaison avec Matuidi, je la trouve assez déplacée, dans le sens où Matuidi est surtout un joueur qui avait un coffre physique immense que Nuno Mendes n'a pas. Quant à Nuno Mendes, il a des qualités techniques avec le ballon évidentes que Matuidi n'a pas. Donc, je ne vois absolument aucune similitude entre les deux joueurs. En revanche, je pense que ça pourrait être essayé, mais ce ne serait pas la meilleure manière de l'exploiter. Pour moi, il faut le laisser latéral gauche, en fait. Donc, ce n'est pas que c'est impossible à essayer, mais ce n'est pas la meilleure manière de l'utiliser pour moi.
À la rigueur, ailier, pourquoi pas? Peut-être ailier gauche, voilà, t'arrives, t'as besoin. Je vais monter ton latéral parce que, voilà, ailier gauche, oui, ça s'entend. T'as des problèmes de blessure, ouais, mais milieu de terrain, non.
Il y a Naldor qui nous dit, même si je ne suis pas d'accord avec lui, mais c'est le seul aujourd'hui dans l'effectif capable d'éliminer balle au pied, capable de faire avancer le ballon au pied dans un milieu relayeur gauche à voir.
Il faut surtout que tu investisses sur ce milieu, hein. On le dit depuis des semaines, des mois. C'est au milieu qu'il faut acheter. Hein. C'est bien, on a mis la caillasse en défense, on a mis la caillasse devant. Là, sur ces deux postes, on est paré. Maintenant, c'est au milieu qu'il faut investir, en fait. Il faut arrêter les paris à 40-50 millions de jeunes joueurs à fort potentiel qui peuvent potentiellement un jour devenir des top joueurs. À un moment, il faut ces joueurs qui nous manquent aussi dans ce secteur de jeu.
Prosper, pour revenir à ce que tu disais tout à l'heure, déjà non, mais je ne critique pas le fait d'y aller, je dis juste c'est des joueurs professionnels. On a une semaine d'un match de Ligue des Champions, faut être sérieux les gars, faut arrêter
C'est
les
pas le fait
bêtises.
d'aller en boîte qui gêne, c'est d'y aller à ce moment-là qui gêne, surtout.
Vitinha, une grosse technique. Ah, aussi. Bon, écoutez, on va passer au deuxième message boîte vocale qui va peut-être être plus intéressant pour vous. Qu'est-ce qu'il dit Moussa? Mais être milieu, c'est pas juste effacer ton vis-à-vis, le jeu sans ballon, la lecture, c'est pas pareil que arrière-gauche, en effet. Deuxième message, boîte vocale qui nous vient du Canada. Ouais, je vais les séparer en deux parce qu'il est assez long. Le premier, c'est la question de Kader, qui nous parle de Beraldo.
Je sais déjà que ça va faire froncer des sourcils, mais je parle d'un test, quelque chose que j'aimerais voir tester. C'est Beraldo en 6. Donc je vois déjà des visages qui se ferment là, mais écoutez d'abord mon point avant de juger.
Donc, on va écouter le point de Kader tout à l'heure, mais déjà, tonton, tu penses quoi de Beraldo en 6?
Bah moi je l'essayais en fait, donc mes sourcils ils se froncent pas trop comme tu le vois. Non, moi c'est quelque chose que je veux essayer. Donc moi je suis pas fermé à l'idée du tout. Si tu mets Hernandez et Marquinhos derrière dans l'axe, et que tu mets Hakimi à droite et Nuno Mendes à gauche, ça te permettrait de garder cette structure, cette fausse structure à 3. Beraldo, il a les qualités ballon au pied, je pense, pour pouvoir jouer à ce poste. Donc, en sachant que justement son point faible reste encore un peu défensif, là tu réglerais le problème avec Hernandez et Marquinhos qui couvriraient ses arrières. Donc, moi je suis pour essayer pour le coup, j'aimerais bien voir. Après, est-ce que ça marchera? J'ai aucune certitude à ce sujet, mais moi j'ai vraiment envie d'essayer en tout cas. C'est quelque chose dont je parlais déjà justement.
Gâteau, je vais laisser à vous d'écouter ce qu'il a dit Kader pour sa défense.
Ça peut être intéressant, ne serait-ce dans la relance, mais pardonnez-moi, Beraldo, j'ai rarement vu un joueur aussi jeune, aussi lent. Donc en 6, ça risque d'être compliqué. On poussait 6 pour refaire comme Fabian Ruiz et vous voir vous énerver lors des matchs de champion, comme au dernier match de Champions League, là. Oh. Donc ça peut être testé, c'est pas bête, hein, vu sa relance. Après, faut de la vitesse aussi, quoi.
PNL qui nous écoute depuis la boucherie. Bah, dis-nous qu'est-ce que t'as pris, frérot? Est-ce que t'as pris des escalopes? Est-ce que t'as pris de la viande hachée, du steak? N'hésite pas à nous dire. Bah, du coup, on va écouter ce que Kader il a à dire pour sa défense, pour expliquer pourquoi il veut mettre Beraldo en 6.
Pour l'instant, en tout cas moi, de ce que j'ai vu, Beraldo, je vois 5 grands points forts chez Beraldo. Il a la passe courte, il a la passe longue, il a la vision de jeu, il a une qualité technique et surtout il a une capacité à jouer sous pression. De l'autre côté, Beraldo, on voit quelques points faibles. On voit par exemple, il n'est pas très rapide, il n'est pas très costaud, il n'est pas très bon de la tête. Ça, ce n'est pas des qualités qu'on veut voir chez qu'on peut même voir chez un top défenseur central. Il n'y a pas un top défenseur central au haut niveau qui manque de vitesse, qui manque de jeu de tête et qui manque, tu vois, de physique. Donc ça, ce n'est pas les qualités d'un défenseur central. Je veux pas, loin de moi l'idée de le comparer à Busquets, mais les gars, il n'y a pas des similitudes avec les qualités et les défauts que je viens de citer. Moi, j'ai l'impression qu'il y en a. Et encore une fois, c'est pas du tout. Je suis pas en train de dire que Beraldo, c'est le prochain Busquets, pas du tout. Je dis juste que je vois des qualités d'un top 6 chez Beraldo et j'aimerais voir Enrique le tester. Surtout que Beraldo, il a 20 ans et que Enrique, c'est un coach qui sait.
Voilà, gâteau.
Oui, écoute, bon, en soi, ce qu'il a dit, c'est pas fou. Dans ses qualités, il pourrait jouer 6. Ça, c'est un 6 qui jouerait dans des phases offensives ou qui participerait au tout début des phases offensives. Qu'en est-il des phases défensives? Parce que nous aussi, on a besoin des 6 qui viennent, qui sont au charbon. On ne peut pas laisser Warren plus Vitinha ou Vitinha plus comment il s'appelle? Ugarte ou Fabian Ruiz faire que les tâches défensives. Les tâches défensives sont faites à 3. Au milieu de terrain, il faut de la vitesse. Faut de la vitesse. Au contrôle pour lancer les ballons, oui, il n'y a pas de souci. Mais après, vision de jeu aussi, je sais pas. Vision de jeu, quand tu es de derrière, c'est peut-être plus simple aussi, tu es un peu plus tranquille. Le temps que l'attaquant il arrive, il est toujours dépendant aussi de la montée de son bloc. Donc c'est pour ça qu'il a le temps de relancer comme ça aussi. Malgré que je ne critique pas ces relances qui sont très bien et sont très appréciables. Maintenant, quand même, faut quand même faire doucement. Et c'est là les comparaisons, les histoires de Busquets. Oui, mais Busquets aussi, il a du vice. Et on ne le voit pas, et parce qu'il est peut-être un peu gentil, machin, sur le visage, mais il a du vice. Il sait te mettre des coups quand il ne faut pas mettre des coups. On le voit pas, parce qu'il a longtemps joué avec Iniesta devant lui, avec Xavi, qui contrôlait énormément le ballon. Mais Busquets, il a eu du vice longtemps. Tu vois? Donc ça, faut voir. Et c'est pas parce qu'il est grand, c'est pas parce qu'ils sont grands comme ça tout ce qui est Busquets, Mota, tous ces joueurs-là, il y a du vice avant, avec ses qualités. Beraldo, bon, il a 20 ans. Le vice, ça peut arriver, oui, très bien. On va pas demander à un mec de 20 ans d'être un vétéran tout de suite, mais en 6, ça reste à voir. Je ne mets pas un veto dessus, parce que je n'ai pas à mettre de veto, de toute façon, chacun donne son avis. Mais doucement quand même.
Moi, c'est plus la comparaison avec Busquets que je trouve un
Ah oh,
peu.
les gars, arrêtez, il n'a pas dit ça. Il a bien dit, c'est pas pour comparer. Il a dit, il voit des similitudes dans les qualités. Il n'a
Mais en
pas
fait, j'allais dire,
comparé.
moi, il y a un autre joueur qui me fait plus penser à Beraldo que Busquets, en fait, au niveau du poste. Moi, j'ai plus te parler de Gvardiol, en fait, au niveau des qualités et du profil de jeu. Et Gvardiol est formé ici jusqu'à ses 15 ans. Donc, ça peut, tu vois, moi, je pense qu'il se rapproche plus du profil de Gvardiol que celui de Busquets, en ce qui me concerne, tu vois.
D'accord. Je vous écoute depuis Auchan, Maître Gims. Quant au milieu du rayon légumes. Bah, pareil, dis-nous, qu'est-ce que tu fais comme course à Auchan? On veut savoir qu'est-ce que vous faites de votre vie, les gars.
Maître Gims.
Maître Nix.
Touche le sort de ce corps. Ouais.
Les
Sinon,
expériences folles, ouais.
écoutez, qu'est-ce qu'il nous reste comme sujet? Bah, ça a été démenti depuis, donc on va pas l'aborder. Mais hier, ça sortait du Portugal que le PSG serait intéressé par Guillaume Queiroz, je sais pas si ça se prononce comme ça, clause à 100 millions. Mais ça a été démenti depuis par une autre source, donc on va pas forcément en parler. Bah, du coup, on va passer directement à vos questions. J'en ai gardé pas mal. Il y a Franck qui nous dit, par exemple, je vois bien les Espagnols faire un gros match contre le Barça, Asensio et peut-être même Ruiz. Voir Dembélé, Lucas et Hakimi au retour. Soler, connaît pas. Tonton, t'en penses quoi?
Asensio, déjà, il faut qu'il soit en état de jouer, ça va être compliqué. Je sais pas si c'est forcément les Espagnols qui vont faire un meilleur match. Je pense que tu vois, c'est une histoire de qualité et des défauts du Barça. On va pas se mentir. Je pense plus que Ousmane Dembélé et Kylian Mbappé en termes de profil aient plus de chances de perturber le Barça que les autres, notamment par leur vitesse, notamment justement par leur maîtrise de la balle à haute vitesse. Je pense que c'est plus ces deux-là qui vont poser problème que les autres.
Gâteau, toi, tu penses qu'on va être sauvé par nos amis espagnols face au Barça?
Sauver, il faudrait déjà que sans difficulté pour être sauvé. Et non, moi je pense que ça passera par Kylian Mbappé, par notre ami portugais Vitinha, par les gars comme aussi Nuno Mendes, tout ce flanc gauche là. Et puis à droite aussi Dembélé. Moi je sais pas pourquoi Dembélé, il marque pas, il marque peu, il a marqué un seul but dans la saison, boum, il va t'en marquer un contre le Barça. Et j'espère que ça va se passer comme ça.
Il n'a pas
Match
besoin de
aller,
marquer pour être
comme
bon pour
match.
moi.
Non, non, mais eh oh, qu'on arrête aussi, il faut qu'il marque un peu de but, et c'est bon. On a acheté 50 pétards l'année aussi, on paye bien. Les flip-flops et les différences comme ça, les avancées, les montées de balles, c'est marrant, c'est bien marrant, mais qu'il marque un
Utile
peu,
surtout.
ça va nous faire du bien aussi. Et qu'il marque contre le Barça, ça va nous faire du bien, ça va lui faire du bien. Donc moi, je compte sur la côté la connexion franco-portugaise.
Guadastay qui nous dit, je viens d'arriver au bureau, il est 8h11. Ah, t'es bien, hein?
Il est en Guadeloupe, lui.
Tapis, t'es à
Toutes
Saint-Anne,
les régions du monde, monsieur.
Ouais, on est partout, c'est bien. J'aime bien
Ah, c'est
parler
bien
avec vous.
ça.
Partout, il y a du Canada, de la Guadeloupe, du Portugal. C'est
C'est
merveilleux.
francophone.
Bah, j'ai dit Portugal, donc.
Ah, aussi Portugal. Ouais, mais tu sais, il y a beaucoup de francophones au Portugal, crois pas.
Ouais. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme question? Il y a Moussa qui nous dit, au milieu, il faudrait avoir de l'impact. Il faudrait être disruptif, bloquer Gundo ou garder dans un rôle de briseur d'action. Je pense qu'il y a disrupteur. Qu'est-ce que vous pensez de faire confiance à Ugarte dans ce genre de match en sachant que c'est un match qui va peut-être se jouer au milieu de terrain? Et du coup, il va y avoir, c'est à deux tranchants. Soit, si tu veux jouer à la possession, Ugarte, il va te faire mal. Soit si tu lâches la possession ou garder, il peut te faire grave du bien. Donc, qu'est-ce que vous pensez de ça?
Ben, je te rejoins sur le fait que ça va dépendre de la physionomie du match, dans le sens où Ugarte, il récupère beaucoup de ballons, mais il en perd aussi beaucoup. Donc, si tu comptes sur lui pour jouer la possession contre le Barça, ça me semble un peu tendu. En revanche, si tu l'utilises justement bah, sans ballon, dans ce rôle de harceleur, où tu lui demandes d'aller embêter Gundogan et Fermín López, ben là je pense qu'il peut avoir une vraie carte à jouer. Mais je pense que ça revient à la thématique dont j'avais évoqué au moment où on avait fait le tirage, c'est lequel des deux arrivera, en tout cas quand je parle des deux, je parle des coachs de Xavi et Luis Enrique, lequel des deux arrivera le mieux à subir la domination, parce que les deux aiment dominer et les deux n'aiment pas être dominés. Donc je pense que ça se jouera surtout à celui qui joue le mieux en étant dominé.
T'es d'accord avec ça, Gato? Ou Garté, tu veux pas le voir sur le tas?
Non, moi j'ai pas de veto contre Garté, parce que en soi, il a aussi son rôle à jouer. Tu sais, des fois, il y a des gens où tu les attends pas. Et si tu veux être avec les meilleures dispositions, comme on avait eu avec Kylian Mbappé contre la Real Sociedad au match retour, jouer en contre, exploser. T'imagines, Ugarte qui casse un peu au milieu de terrain, qui va faire chier les Gundogan et les histoires de Firmin, et je crois que De Jong il est blessé, donc voilà.
Ouais, mais possiblement sur le retour, donc je mets le doute sur
le retour, il va bloquer ça, avec l'aide aussi de Warren et de... ou soit Ugarte, Fabien Ruiz, soit notre ami Vitinha, et t'arrives à avoir cette physionomie-là de savoir subir et exploser avec Nuno Mendes, Hakimi, Dembélé, Kylian Mbappé. En point de fixation, tu mets un mec comme Ramos ou bien Ronald Kolo Muani, ça peut aussi être bien cette stratégie-là. Donc ouais, c'est possible. Moi j'aimerais bien, parce que en soi c'est soit lui, soit Fabien Ruiz ou bien Vitinha en 6. Vitinha en 6, c'est vraiment pour le contrôle. Mais est-ce que physiquement ça va tenir contre ce milieu-là? Là j'ai mis un peu plus de doute. Donc j'aimerais. C'est vrai que là ton option de essayer de casser un peu le jeu, bloquer, pour pouvoir exploser en compte, ça m'intéresse. Ça m'intéresse parce que c'est vraiment les qualités qu'on a, même si c'est pas la physionomie du coach, et on sait que le coach est dogmatique. On va sûrement aller essayer de chercher le contrôle du ballon. Je pense pas que contre ce Barça-là, ça risque d'être chaud. Après, il y a tout truc, il y a tout plein d'options. Est-ce que si tu vas que Ugarte, tu auras la possibilité comme de casser le milieu de terrain, c'est pas sûr, parce que quand même techniquement en face c'est très très propre. Moi j'aime bien l'option de Ugarte pour pouvoir jouer exposer en compte, en tout cas.
J'ai un petit message dans l'oreillette, j'ai la régie qui me dit que la brigade anti-crevard a appelé et que vous êtes 200 et qu'il n'y a que 68 likes, donc ça va passer mettre des amendes à tout le monde. Donc bon les gars, si vous voulez pas prendre d'amende, likez s'il vous plaît et abonnez-vous, c'est important, parce que je crois qu'il nous reste 50 abonnés avant les 13 000, donc abonnez-vous. Je sais que vous êtes plein à regarder qui n'êtes pas abonné, parce que dans tous les cas la vidéo elle apparaît dans votre feed YouTube, donc pas besoin de s'abonner, mais oui il y a besoin quand même pour nous aider, donc abonnez-vous. Il y a quoi d'autre comme question? Marquinhos latéral droit, je crois qu'on en a déjà parlé.
On en avait parlé déjà.
Eridine qui est depuis la Norvège. Ouais, on nous écoute depuis la Norvège. Qui veut savoir comment rejoindre le forum. Écoutez, envoyez des mails, les gars, si vous voulez participer. Après, on verra. Si vous n'êtes pas trop catastrophique, normalement, ça devrait passer. Il y a quoi d'autre?
Harry Hung, il me demande est-ce qu'on va faire un feat avec Walid Acharchour. J'ai déjà croisé Walid Acharchour, il n'est pas contre, mais il faut voir avec le patron maintenant.
Moi, je suis pas contre.
Mais déjà, tu nous as même pas dit cette info, Gato. Merci de nous la prendre comme travail.
Des fois, il y a des infos. Ça date, hein, ça fait des années. Donc,
il nous dit ça date en plus.
Non, mais bon.
Ouais, c'était il y a un moment, peut-être c'était bon à l'époque, et là, c'est plus bon.
Attends, bah, c'est bon ça.
Il y a Harry aussi qui nous dit il n'y a aucun grand milieu qui veut venir chez nous. Et ça, c'est vrai que c'est une thématique de fou. On a réussi à attraper un top 3 gardien. Je pense que Didio, il est top 3, c'est mon avis. Mais après, voilà. On a réussi à avoir des attaquants de fou. On a eu des Kylian Mbappé, des Neymar, des Messi. Même défensivement, on a réussi à ramener Lucas Hernandez, qui est un top 3, 4, 5.
Alex de Chelsea.
Ouais, on a Hakimi qui est censé être top 3, top 4 arrière-droit.
Quand ils viennent, ces mecs-là, il faut voir aussi au moment... Parce que là, Donnarumma, il est peut-être top 3 parce qu'il a progressé, mais en 2021, est-ce qu'il est top 3? Je suis pas sûr. Non. Il a progressé, il faut le dire. Donc, les mecs, quand ils viennent, Alex, il a déjà sa carrière un peu derrière lui. Alex de Chelsea, c'est plus le top 3 défenseur central. Tu as quand même des histoires encore de Ramos, t'avais du monde. Même Pépé, encore une fois, il y avait, voilà... comment il s'appelle? David Luiz, quand il vient au Paris Saint-Germain en 2015, je suis pas sûr que ce soit 2014-2015, il me semble. Je suis pas sûr que ce soit le top 3 non plus. Donc, faut voir au moment où ils viennent. Là, Donnarumma, c'est un contre-exemple parce que Donnarumma, au moment où il vient, je suis pas sûr que ce soit top 3 gardien et il monte, il développe là en cette année. Donc, faut voir au moment, et c'est vrai qu'au moment, on a du mal à faire venir les top joueurs dans le. C'est pour ça qu'on se dirige vers des prospects et essaie de les faire monter. Mais pour faire monter des joueurs en termes de niveau, faut comme un minimum de structure. Mais avec Luis Enrique, je sais pas, j'ai une confiance qui. Ça a changé un petit peu. Ça a changé, j'ai l'impression que ça peut le faire. Par contre, malheureusement, j'ai l'impression que l'histoire avec cet entraîneur-là risque de mal se terminer, mais il va se passer de très belles choses pour le PSG entre-temps. Donc, il faut faire venir des grands joueurs. C'est plus l'histoire d'Ibrahimovic, etc., de Thiago Silva. C'est vrai que c'est fort différent aujourd'hui.
Il y a Fleking qui nous dit faites un feat avec Talk My Football.
Il a
Alors,
déjà
on l'a
fait.
déjà fait, mais personne ne l'a forcément vu parce que peut-être la vidéo elle a flop. Mais on avait fait une
C'était au
vidéo
tout début ouais, de la chaîne.
pour Verratti. Ah, je sais même pas si elle est toujours en ligne parce que je supprimais pas de vidéo, mais
Ouais.
on a déjà fait avec Talk My Football. Ok, Walid, bah du coup, vous avez même pas répondu à la question, les
Alors
milieux de
moi, si tu
terrain.
veux, je peux t'y répondre. Parce qu'en fait, j'ai vu des noms dans le chat. Alors, j'en ai vu qui m'ont fait plaisir. J'en ai vu d'autres qui m'ont fait faire un salto arrière de la rétine, tu vois. Parce que quand je parlais des milieux dont on avait besoin, je citais certains niveaux. Tu vois, je parlais de Bernardo Silva, je parlais de Frankie de Jong, de Enzo Fernandez, tu vois, genre de Kimmich, de Bruno Guimarães. Donc, tu vois, quand je commence à voir dans le chat des propositions du genre Savanier et Lesmelou, les frangins, j'espère sincèrement que c'est du troll parce que sinon je vais m'énerver. En revanche, la piste, voilà, tu vois. En revanche, la piste Dani Olmo, tu vois, elle peut être intéressante. Le problème de Dani Olmo, en revanche, ça reste les blessures. Ça reste les blessures, sincèrement, parce que c'est un super joueur. Il a une clause pas très élevée. Elle ne serait qu'à 50 millions. C'est un meneur de jeu. Pour ceux qui doutent encore de leur qualité, je vous invite à voir le replay du match entre l'Espagne et le Brésil. Et j'aimerais voir si Lesmelou ou Savanier sont capables de faire ce genre de choses. Je ne pense pas. Donc, oui, c'est des joueurs qui sont de ce calibre que je chercherai. Donc, forcément, je pense que ça va être compliqué à un moment de faire que des paris, surtout au poste de milieu de terrain. Donc, je ne dis pas qu'on peut facilement choper des milieux du calibre des joueurs que j'ai cités précédemment. En revanche, je pense qu'on doit tout faire pour choper des joueurs de ce calibre.
Oui, mais après, il y a le problème de disponibilité. Il y a Moussa qui nous dit, par exemple, quel milieu est dispo, quel top player est sur le marché au niveau des milieux de terrain.
Mais sans être sur le marché, il y en a qui ont des clauses. Bernardo et Olmo, 110 millions les deux, et t'as pété deux clauses.
Guimarães, il y a des
Guimarães, une
clauses.
clause aussi, bien sûr.
Il y
Donc,
a
tu peux
Wirtz
faire des clauses.
qui va être sur le départ, mais bon, ça va aller vers le Bayern, mais il est
Ouais.
sur le départ, en tout cas, il est sur le marché, peut-être.
Quand tu vois comment il s'éclate avec Mouziala, ça va être compliqué de lui faire croire qu'il peut jouer mieux avec un autre joueur à côté de lui. Hein.
Ouais, je vois pas d'autres joueurs. Donc, si ces joueurs-là veulent pas venir, après, t'es obligé de partir sur un pari, je pense.
Mais encore un pari à ce poste. Tu vois ce que je veux dire? Je pense qu'on en a fait suffisamment.
Faut pas s'inventer qu'ils nous disent Zaïre Emery en 6, Sentinelle, récupérateur. On en avait déjà parlé, je crois, au dernier live.
Oui, on en avait parlé. Je pense que si Luis Enrique le voulait, vraiment, il aurait fait plus que ça. Il a testé une fois ou deux, mais pas beaucoup.
Il y a aussi Romain qui parle du PSG. Je vous ai déjà dit, les gars, tout le monde est le bienvenu. Si
Ah, on
vous
a
voulez
déjà dit
venir,
la semaine dernière,
non,
oui.
il n'y a pas de souci. Il y a Shiraz qui nous dit, moi, je veux Wirtz au PSG.
Et moi, je Kimmich et Rodri, mais bon, on peut pas tout avoir dans la vie, mon copain. Mais on
Olmo,
l'aura.
même LDC, c'est fort. Tu confirmes, tonton?
Ah, mais joueur super intéressant, hein, Dani Olmo. Après, comme j'ai dit, le seul facteur qui est inquiétant chez lui, ça reste les blessures. Et s'il se blesse beaucoup en Bundesliga, ça va être compliqué de me faire croire qu'il ne se blessera pas en Ligue 1, tu vois. Mais cependant, un joueur super intéressant. Bonne question, Boniface. Ouais.
Mais même s'il est en contrat jusqu'à 2028, tu verras qu'il va partir. Il va partir, c'est juste qu'il va pas venir chez nous. C'est tout.
Non, je pense que le Bayern a trop d'avance par rapport à nous sur le dossier.
Il y a Monsieur Blessé, je vais laisser Gato répondre. Qu'est-ce que tu penses de Bennacer?
Là, ça, c'est un super joueur. Faut voir comment il revient aussi de sa blessure de l'année dernière face en demi-finale de Champions League. Je ne sais pas comment ça a été fait. Est-ce qu'il avait joué contenu cette saison en phase de poule
Non, il
parce qu'il
était
était un peu
absent,
blessé.
justement. Il était
Il était
absent
blessé.
les deux matchs.
Il était absent les deux matchs. C'est un super joueur, j'aime bien, et en plus, la combativité. Est-ce qu'après, on ne cherche pas aussi de la taille? Parce que Bennacer, il est un peu petit. Mais bon, s'il est performant, il n'y a pas de souci. Moi, j'aime bien en tout cas Ismaël Bennacer, je le prendrais si... Après, il y a des doutes sur le retour de blessure, comment ça s'organise pour lui, quoi. Mais moi, j'aime bien en tout cas.
Franchement, les blessures, j'ai pas trop confiance en comment il va revenir. Après, il y a les mêmes noms que d'habitude. Rames, Khéphren Thuram, non, non.
Il va coûter
Non,
trop cher. Ils vont de Nice, vous
non.
demandez plus cher pour Khéphren que pour Bernardo et Olmo. Donc à partir de là, on arrête la
Ronald
blague.
Monaco, oui, mais Khéphren Thuram, même à Nice, il galère. Même à Nice, il galère. C'est-à-dire que s'il doit venir au PSG pour passer un step, il faut déjà que dans son club, tout de suite, il soit le meilleur. Voilà. On ne parle pas d'un club qui joue régulièrement la Champions League, on ne va pas d'un club qui joue régulièrement l'Europa League, on parle de l'Olympique Giresse de Nice, qui a fait un quart de finale de Ligue Europa Conférence, très bien, mais voilà, c'est Khéphren Thuram, il a des qualités, certes, mais il doit peut-être aller passer par Lyon, par Monaco, par un club un peu entre le PSG et Nice pour pouvoir après aller au Paris Saint-Germain.
Monaco, il en vient, figure-toi. C'est ça qui est drôle,
Bah,
c'est
c'est
qu'il est
ça,
parti de
c'est ça.
Monaco pour arriver à Nice. Donc, ce serait drôle qu'il fasse encore l'ascenseur là.
J'ai des doutes.
Il y a Prosper qui me dit, je veux Verratti
Hein, tu veux Neymar avec une cheville neuve aussi, et tu veux Messi sans qu'il nous fasse chier, et tu veux Mbappé sans son ego. Ouais, c'est trop facile à un moment. Tu peux pas avoir le beurre, l'argent du beurre et le
désintoxiqué.
sourire de la crémière.
Non, 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 non,
Non,
Gère,
merci.
non. On veut ni
Non,
renoncer
merci.
à Mrabat, ni Casemiro. Gâteau, je pense que tu es bien placé pour nous parler des performances pour l'année
Ah,
noire.
les gars, non, vous pensez quoi? Vous
Mrabat,
allez.
des points
Non.
à Manchester face à Liverpool, si je ne me trompe pas. Si c'est
De
les deux.
qui?
Amrabat qui fait une passe, qui rate une passe et qui fait une passe d'ess à si qu'on vous perdez contre Liverpool, non? Ou ça
Non, parce que déjà, cette saison, Manchester United n'a pas perdu contre Liverpool, premièrement. C'est
Bah, c'est
contre
Arsenal.
Manchester City.
Ah, c'est contre Manchester City, effectivement, et c'est
Voilà.
Haaland qui marque derrière. Ouais, je me rappelle.
Ouais. Donc, ouais. Et puis j'étais à Old Trafford pour un match où Manchester a perdu 3-0 face à Bournemouth. Et Amrabat était catastrophique. Donc bon, n'y allez pas avec Amrabat. Il y a d'autres milieux de terrain. Ils ont proposé qui là? Fofana de Monaco aussi. C'est pas Palinia. Des voilà. Il y a des joueurs. On va essayer de s'en sortir parce que voilà.
Là, t'as de bonnes pistes.
Joueur qu'on a oublié, qu'on parle plus trop depuis l'histoire de Paris, qui a avorté son transfert à City, il y aurait encore Lucas Paqueta quand même. Qu'est-ce que vous pensez de Lucas Paqueta?
Non, excellent joueur. Après, le problème, c'est le prix qui va être demandé par West Ham. Hein. Ça parlait de 100 millions l'été dernier pour qu'il parte du côté de Manchester City. Après, bon, c'était un transfert entre clubs de PL. Si lui force le départ pour vouloir venir chez nous, il y a moyen de faire baisser un peu cette note. C'est un joueur qui peut jouer 8, qui peut jouer 10, vraiment. Donc il a ce profil vraiment dans le milieu de Luis Enrique pour être le profil qu'on attend justement de ce milieu qui fait la transition entre le milieu et l'attaque, qui peut marquer des buts, qui peut faire des passes décisives, qui peut récupérer et gratter des ballons. Pour un milieu offensif, il est très très bon justement dans l'aspect défensif et la récupération. En revanche, est-ce que lui a tout intérêt à venir chez nous? Je pense que la question se pose. Si Manchester City pose la caillasse et lui promet une place intéressante dans son effectif, est-ce que Paqueta ne voudra pas être au top de la PL plutôt qu'au top de la Ligue 1 qu'il a déjà goûté avec Lyon? La question se pose. Mais s'il y a une possibilité de le faire, moi j'ai rien contre. C'est un joueur que j'aime bien.
Alors, Gato, si jamais tu as un problème avec la justice et que tu as accusé d'être quelque part le 12 août, sache que tu as un alibi avec PNL qui t'a dit que je t'ai vu aux abords du parc le 12 août contre Lorient. Mais il n'a pas osé t'interpeller. Mais en tout cas, tu as un
Et
témoin.
pourquoi il n'est pas venu? En plus, on faisait un micro-trottoir pour Paris Central. Pourquoi il fallait venir? On est là, on discute. Tant que tu viens pas avec un coup de couteau pour me planter, c'est bon. Hein, tu viens, on discute. Mais on est des gars normaux. On n'est pas des stars. On se prend pas pour n'importe qui. On vient, on discute. Passer sur la chaîne, il n'y a pas de problème. Je vais essayer de revenir faire des micro-trottoirs avec Sourakata. Tu viens, il n'y a pas de souci. Même on donne un rendez-vous, on va manger, je ne sais pas. Il n'y a pas de problème, les gars. Faut venir. Hein. Faut venir, faut
Ah,
pas hésiter.
il t'a dit la prochaine fois. Moussa qui nous dit, vous en pensez quoi d'un échange avec le Milan, Ramos remplaçant Giroud en rajoutant quelques millions pour Léao? Donc en fait, tu récupères Léao, Giroud et tu donnes Ramos.
Non,
Mais
non,
c'est
c'est Ramos.
complètement
Non,
fou,
parce
ça.
que Giroud, il a déjà signé, il va à Los Angeles FC. Donc Ramos va remplacer Giroud à Milan et nous, on prend
Ah,
Léao, c'est ce qu'il demande.
ok.
Contre. Contre, parce que tu n'auras plus de neuf derrière. Tu n'auras plus de neuf et tu devras re-racheter un neuf et ça coûte super cher. Donc contre.
À moins qu'il mise sur Kolo Muani. Mais moi, je ne mise pas sur Kolo Muani.
Mais Luis Enrique lui-même ne mise pas sur Kolo Muani en neuf parce que ce n'est pas un neuf dans un jeu de position. Donc, à partir de là, compliqué.
Ouais. Franchement, je ne le vois pas du tout venir au PSG Stones. C'est un anglais, ça reste en.
Le problème vient de la nationalité, je te rejoins, Nix. Après, en termes de profil, il peut jouer défenseur central et milieu défensif. Il est utile. En revanche, est-ce que la Ligue 1 va l'intéresser en tant qu'anglais? Je pense pas. Soit il prolonge à City, soit il recherche un nouveau défi.
Bien que y avait eu ce truc là avec Mourinho qui avait réussi à faire, je crois, Smalling venir à Rome. C'était un bon coup, sinon ça reste rare. Tonali, est-ce qu'on peut pas le récupérer avec sa situation? Ouais, il est un peu cramé le garçon.
Il ne va pas jouer pendant 16 mois quand même, hein, le mec. Hein. Dans quel état tu le récupères? À quel prix tu l'achètes? Ça fait un peu beaucoup de si quand même.
Et c'est vrai que c'est un joueur qu'on ciblait depuis tellement longtemps. Je me rappelle quand il était encore à Brescia, Leonardo voulait le prendre et on n'a jamais réussi. Il y a plein de joueurs comme ça et au final, on est en 2024, on s'en mord à les doigts. Mais Leonardo, il était sur Tonali, il était à Brescia. Il était sur Barella avant qu'il signe à l'Inter. Y a qui d'autre? Il y a Paqueta, on était dessus quand il était encore à Milan, je crois.
C'est ça.
Et il y a eu plein de joueurs, Leonardo était dessus. Je ne sais pas si la direction a jamais voulu le suivre parce qu'ils ont voulu prendre des attaquants ou je ne sais pas quoi. Mais notre problème du milieu de terrain, il aurait pu être réglé depuis très 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 longtemps.
Ouais. Parce que... Bon, les gens qui se moquent de mes cheveux, quand on va se faire en réalité, je vais aussi vous expliquer le coup du poing, hein. Attention les gars. Non, mais plus sérieusement, en fait, aussi, le problème, c'est que non seulement on ne va pas confier tout le recrutement à une seule personne, parce qu'il suffit que la personne parte et que le coach se retrouve avec une équipe qui ne lui convient pas, bah, ça peut être compliqué. Et puis, le problème, le problème qu'on avait, c'est qu'on était dans un collège qui recrutait des joueurs. Et ce collège, s'ils ne sont pas d'accord, et bah, y a des pistes. Ah mais tiens, juste pour t'embêter toi, on va pas prendre ce joueur. Juste pour te mettre en difficulté avec tes relations, on va pas prendre tel joueur. Ça va faire ralentir un peu aussi ta carrière de recruteur. Il y a plein de trucs comme ça. Donc, il faut aussi se dire que Leonardo, il avait des très bonnes pistes. Il a de très, très, très gros défauts, Leonardo, mais il avait de très grandes qualités. Par contre, c'était beaucoup, beaucoup de la Serie A. Énormément de la Serie A. Ouais. Peut-être aussi, ça avait des doutes sur le fait que Serie A, mais en Serie A, au moment où Leonardo recrute, et ben malheureusement, ce n'était pas le plus haut en Europe. C'était les clubs espagnols, clubs allemands, clubs anglais, et non pas la Serie A. Et la Serie A revient là, doucement. C'est ça aussi.
Mais après, les gens ils disent ça, mais les transferts de Leonardo de Serie A, je crois qu'il est genre à 90% de réussite. Hein. Il y a qui a foiré Serie A? Il y a Florenzi.
Icardi.
Ouais, Icardi.
Florenzi, il n'a pas foiré. Hein. Sa saison, il est pas
dit. Icardi, ce n'est pas un flop de recrutement. Je suis désolé.
C'était pas une volonté du club. C'était pas une volonté du coach. Tu as forcé pour le prendre. Il est devenu nul dès que tu l'as signé.
Oui, c'est faux. Il n'est pas devenu nul dès que tu l'as signé. C'est faux. Les six premiers mois, il était bien. C'est que physiquement.
Bah oui, c'est ce que je te dis. C'est ce que je te dis, Gâteau. Donc avant que tu le signes, quand il était en prêt chez nous et qu'il avait la dalle et qu'il devait être bon, tu fais une bonne affaire parce qu'en prêt chez nous, il est performant. Mais une fois que le prêt est fini et que tu lèves l'option d'achat et que tu le transfères, est-ce qu'il est bon à partir de là?
Oui.
Voilà.
J'avais pas vu
donc,
comme ça.
C'est ce que je te dis. Donc, et Moïskine, ça aurait été la même chose. Hein. Moïskine, ça aurait été la même chose, que ce soit bien clair. Donc, le problème, c'est que Icardi, tu l'as juste fait en sachant que sa femme, c'était son agent. Tu as réussi à faire venir un agent extérieur pour lui faire gratter une commission. Ce transfert, lui, c'est le pire de Leonardo dans son deuxième mandat, hein, clairement.
Pour ce qui s'est passé en extra-sportif, mais moi, je te dis, encore une fois, on l'a vendu à 10 millions à Galatasaray. Galatasaray est très content de l'avoir. C'est un très, très bon numéro 9. Après, il y a le côté où c'est un joueur qui avait besoin d'être qu'à jouer. Donc, on n'a pas réussi à faire ça avec Tourelle parce que, bon, c'est pas son fort. Mais c'est pas un foiré de Leonardo. Moi, de toutes les recrues qu'il a foirées, Leonardo, c'est toutes celles qui ne sont pas sorties de Serie A, justement. C'est limite le mec qui était spécialiste en Serie A, il te trouvait que des cracks. Dès qu'il sortait de là-bas, il te ramenait des merguez.
Non, mais Icardi, c'est pas. En soi, sur le terrain, on ne va pas lui reprocher énormément de choses. C'est surtout l'extrasportif qui a entaché sa carrière au Paris Saint-Germain. Les histoires où il est en dépression alors que c'est lui-même qui trompe sa femme et toutes ces conneries-là. Donc c'est ça, c'était ça le problème. C'était pas le terrain pour moi avec Mauro Icardi. Mais bon, Leonardo, il a fait des belles choses, il a fait des moins bonnes.
Excusez-moi, mais ça, si on le découvre quand on le signe au PSG, c'est qu'on est les derniers des abrutis. Le mec, il avait déjà des casseroles à l'Inter Milan et à Cagliari avant.
C'est vrai, c'est vrai.
Le mec, il avait déjà un vécu sur le fureux. Le mec a fait une autobiographie de lui-même à 23 ans quand même. Je sais pas si on se rend compte du gars.
Il avait besoin de parler, peut-être, je sais pas moi.
Il a fait une autobiographie de toi-même à 23 ans, faut avoir quel genre d'ego.
Jamais d'autobiographie.
Léo Messi, même Cristiano Ronaldo, même Zlatan, ils ont pas osé faire ça.
Mais ça, c'est leur délire, ça. Je sais pas, peut-être il est émotif, les Sud-Américains, ils ont une émotion particulière. Mais je le défends pas, moi, je m'en fous. Tous les livres des grands joueurs, même des grands coachs, livres d'Alex Ferguson, etc. Moi, j'achète pas ça, ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas. Donc, je vais pas les. Voilà. Mais c'est vrai que le move, il y a Eddie qui nous dit que le move le moins bon de Leonardo, c'est la prolongation de Devin Kurzawa.
4 ans, mais aïe, pas pour rien.
À 500 000 du mois brut. Et aujourd'hui, il est encore là. Hein.
Je ne sais même pas si je lui reproche vraiment ça.
Alors, moi, ce que j'entends, je peux reprocher certaines choses. C'est-à-dire, pour moi, il faut quand même relier chaque partie. Pour résumer, dans les faits, Kurzawa, à la base, il est prolongé et doublé de salaire à la même époque que Bernat. Et à ce moment-là, on avait possibilité de perdre nos deux latéraux gauches en même temps et on avait que Bakker pour compléter l'effectif. C'était trop peu. Donc moi, je entends qu'à ce moment-là, et même au niveau d'opportunité de marché, les mecs, on ne va pas se mentir, à ce moment-là, retourner en arrière et retourner à ce moment-là, il n'y avait personne sur le marché d'intéressant pour le PSG. Tous les latéraux gauches qui avaient le niveau de top joueurs, ils étaient maqués dans leur club, il n'y avait aucun moyen d'aller les chercher. Moi, j'entends qu'à ce moment-là, tu étais un peu sous pression. En revanche, avoir complètement doubler les salaires et être mis totalement sous pression à un point où Bernat, il arrive, il touche un salaire qu'il n'avait même pas osé demander de lui-même et que t'as Kurzawa qui se met à rajouter des 4 ans, oui, mais pas pour rien, alors que le mec est à la base presque parti, il avait un accord ailleurs, là, t'as mal géré. Si derrière, tu me dis en mode « Ouais, Kurzawa, il a voulu le faire payer à Leonardo parce que si ça, il y a des histoires entre eux, je ne les connais pas », ok. Leonardo, il est parti depuis. Leonardo, il n'est plus au club. Donc, à quoi qu'il te force à le faire payer encore à Leonardo ? Rien du tout. Donc, est-ce que, tu vois, genre, moi, je reproche au club d'avoir mal géré les dossiers parce que, oui, tu étais en situation où les deux étaient en fin de contrat et tu avais besoin d'avoir un latéral gauche à ce moment-là. Mais le fait d'avoir craqué et d'avoir donné des conditions aussi folles à ces deux joueurs. Alors, Bernat, ça se méritait. Bernat, ça se méritait de par ses performances en Ligue des Champions avant ses croisés. Mais Kurzawa, il avait fait quoi qui te montrait qu'il méritait cette prolongation de 4 ans avec je ne sais pas combien de fois plus son salaire, à part son move contre Dortmund, où d'ailleurs il fait du Kurzawa, le mec il te fait un super geste pendant 20 secondes, et derrière il se rappelle qu'il est Kurzawa. Et il y a quoi qui méritait qu'il ait une aussi grosse prolongation ?
C'est en ça que le deuxième passage de la durée, il y a des... Et en plus, moi, le move qui a mal été géré, bon, aujourd'hui, bon, ça donne raison à Leonardo, c'est Leonardo, il voulait faire partir Kylian Mbappé parce que ça crée des problèmes, et surtout la prolongation de Neymar aussi. On le veut ou non, aujourd'hui Neymar, aussi long, plus 5 ans avec une option, plus 4 ans avec une option de je ne sais combien, hein, et tout. En plus, au moment où il le fait, peut-être il va prolonger Kylian Mbappé ou je sais quoi, mais lui, il voulait le faire partir. Et il avait dit clairement, mais par contre, en tout cas, ce que j'apprécie avec Leonardo, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, il agit toujours. Bon, c'est vrai qu'il agit aussi, c'est un despote, il est assez orgueilleux, il veut travailler toujours tout seul. J'avais croisé Luis Hernandez dans la rue. Et il me l'avait dit, donc je n'ai pas de honte à le répéter ici. Parce que je lui ai dit, mais comment ça se fait que Louis, toi, tu ne travailles pas au club ? Et il me dit, ah bah, si on ne veut pas de moi, on ne veut pas de moi. Je dis, bah écoute, tant pis. Hein. Et puis, par contre, il agit toujours dans le bien du club. Pour le bien du club. Même si, bon, il prend des sous, etc. C'est qu'il, voilà. Mais il agit aussi pour le bien du club. C'est-à-dire que des fois, il gère des dossiers. Ah, tu veux partir ? Ok, tu pars, mais à nos conditions. Il faut que les conditions soient bénéfiques au Paris Saint-Germain.
C'est ça. Moi, comme on avait dit à l'époque, je crois qu'on faisait déjà le podcast, on avait dit la combo Leonardo-Enrique, elle était létale. Je ne sais pas pourquoi elle n'a pas fonctionné à cause des égos et je ne sais pas quoi. Il y en avait un qui arrivait à bien acheter en Italie et l'autre qui arrivait à vendre nos pépites avec des bonus, des pourcentages à la revente. On a encore touché de l'argent sur Nkunku l'été dernier.
Ça, et c'était Enrique.
Ce duo-là, il était vraiment fait pour bien marcher. Après, le problème du Paris Saint-Germain, c'est toujours les mêmes choses. Tout le monde veut du pouvoir, tout le monde veut être le numéro un. Mais en vrai, tu avais deux mecs, ils avaient les qualités pour faire le taf. Et... Dommage. Sur ce, il est 13h40. C'est la fin de la pause déj. Donc, on va vous laisser, les gars. Moscou qui nous dit qu'Enrique va sauver le club. Diaby, il a été vendu combien
45.
Plus bonus, non
Non. 45 et des bonus en plus.
Ouais, mais là, quand il a été à Aston Villa, on a repris de l'argent dessus.
Alors, oui, en fait, si tu veux, il y avait Diaby et Nkunku. S'ils étaient revendus, ils avaient une clause, E2 entre 35 et 40% du transfert.
Ah ben voilà, encore Antero Henrique, les gars.
Voilà, comme avec Mignon.
Bon mercredi, ouais, on est mercredi. Salut à tous, ciao. Rendez-vous samedi 12h30.